Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 22 novembre. Plusieurs dizaines de policiers et de sapeurs-pompiers hier dans le quartier de la Part-Dieu. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Le congrès départemental d'Alliance Police. Le syndicat exige des réponses claires, notamment en ce qui concerne les Jeux Olympiques. La métropole de Lyon entérine une augmentation salariale pour tous les travailleurs de la branche du prendre soin. Des cartons entassés et formant un abri avec sur chacun des cartons un prénom. Ce happening était organisé hier place Louis Pradel à deux pas de la mairie de Lyon et en face du prestigieux opéra. C'est l'association Alinéa qui est à l'origine de cette action destinée à pointer du doigt le gros malaise lié au sans-abrisme. Il y a dans les rues du département 14 000 personnes sans solution d'hébergement. Dans cette édition, Pascal Isoard-Thomas, le directeur d'Alinéa, nous rappellera que quand l'abbé Pierre a lancé son appel en 1954, il y avait 2000 sans-abri à Paris. Reportage dans cette édition. Le salon Horizon Senior s'ouvre aujourd'hui à la Cité Internationale et pour deux jours, 90 exposants pour aiguiller les visiteurs qui souhaitent donner un sens à leur retraite.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plusieurs dizaines de policiers et de sapeurs-pompiers ont procédé à une simulation d'attentat hier soir dans le quartier de la Part-Dieu. Police, sapeurs-pompiers et SAMU ont investi une partie du centre commercial vers 21h et jusqu'à minuit au niveau du magasin Décathlon pour des exercices de préparation. Les passants et les résidents du quartier ont reçu un message du système FR Alert sur leur téléphone vers 22h15. Exercice, événement majeur de sécurité en cours dans le centre commercial de la Part-Dieu. Les forces de sécurité et de secours interviennent actuellement. Respecter strictement les consignes des autorités, c'était le message. L'exercice a eu lieu dans une partie fermée du centre commercial pour ne pas dévoiler les méthodes d'intervention en cas de fusillade. Le congrès départemental d'Alliance Police, une centaine de délégués étaient présents hier, mécontents des effectifs et de la charge de travail énorme selon le syndicat. Ils promettent des journées noires. Ils refusent également le travail sans repos pour les Jeux Olympiques. Gérald Darmanin a respecté ses engagements avec plus de 300 recrutements, mais il n'a pas pris en compte les départs. Des réponses claires doivent être apportées avant la fin de l'année, prévient le syndicat. L'ancien maire LR de Rieux-la-Pape va-t-il devoir lâcher son mandat de conseiller municipal, celui de conseiller métropolitain ? Réponse le 30 novembre prochain. On parle bien sûr d'Alexandre Vincent Day. Les sages du Conseil constitutionnel prendront leur décision à cette date. Le dossier a été examiné hier par la juridiction. La loi sur le cumul des mandats prévoit l'interdiction de cumuler un mandat de conseiller départemental et un mandat de député, mais rien n'est dit sur le mandat de conseiller métropolitain. Or, la métropole, on le sait, a récupéré toutes les missions du département du Rhône sur les 59 communes, penchant pour l'inconstitutionnalité. Le représentant de la Première ministre suggère aux sages d'accorder un délai au Parlement pour rectifier le tir en rajoutant une ligne à la fameuse liste, un choix qui permettrait à Vincent Day de rester à la métropole encore quelques mois. La métropole de Lyon qui vient d'entériner une augmentation salariale pour tous les travailleurs de la branche du prendre soin. Les salariés du secteur de l'aide à domicile, du social et du médico-social toucheront tous les mois une prime de 183 euros net.
Lyon Demain, planète pour tous.
Le SAMU social tire la sonnette d'alarme à Lyon. Les chiffres officiels indiquent qu'il y a aujourd'hui dans le département 14 000 personnes en attente d'hébergement. Nous avons rencontré Kamel. Cet homme, la quarantaine, a connu la rue avant d'être aidé par Alinéa.
Suite à une rupture sentimentale, j'étais accompagné d'une personne. Pour autant, je n'existais pas sur le bail. Et du jour au lendemain, cette personne, sur un changement, parce qu'elle aussi, elle se retrouvait dans une situation où elle a dû partir de l'endroit où elle vivait. En fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain à la rue, d'une façon précipitée. Et de fait, face à cette situation, j'ai dû répondre à l'urgence. Et il s'avère que j'ai eu aussi une chance, c'est de rencontrer quand même la vieille sociale, parce que c'est le tremplin nécessaire pour pouvoir derrière être orienté, pour être mis en relation donc avec Alinéa. Et ce fut le cas. Et pour ma part, ce fut une bénédiction de rencontrer à ce moment-là Alinéa.
Comment ça s'est passé, cette situation? Vous avez rencontré Alinéa, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
En fait, ça s'est fait par le biais de la vieille sociale. Hein. Sans la vieille sociale, j'aurais jamais pu bénéficier de ce support-là. À partir de là, j'ai eu cette orientation, j'ai fait connaissance. Donc moi, c'est une des unités, parce que Alinéa, elle a cette particularité, c'est qu'elle regroupe tout un ensemble d'unités. Et donc, parmi ces unités, moi, je répondais à celle de Polygone. Et c'est d'ailleurs toujours le cas à ce jour. J'ai un suivi et ce suivi, il est à tous les niveaux. C'est-à-dire sur un plan humain, il vous aide sur un plan de votre santé, donc il vous accompagne dans certaines orientations, il vous accompagne sur le logement. Donc j'ai acquis un logement. Ce logement en question, il est toujours pas en mon nom complètement parce qu'il y a un bail glissant. Pour autant, je suis quand même à l'abri, hein, j'ai un toit et c'est tant mieux. Et j'ai toujours donc ce suivi avec eux.
On tire aujourd'hui la sonnette d'alarme à Lyon là, sur le sans-abrisme. Qu'est-ce que ça vous évoque vous ?
Qu'est-ce que ça m'évoque ? Alors, vous voyez, c'est un parallèle et je pense que c'est pas le fruit du hasard. Moi, toute ma vie, j'ai œuvré, j'ai fait de l'humanitaire. En fait, avant d'être à la rue, déjà, je venais en aide aux autres. Donc, j'ai fait toutes sortes de démarches, j'ai connu les maraudes, j'ai équipé des camps. En fait, j'étais déjà citoyen de cette vie-là et je pense qu'on est tous acteurs et on a tous un rôle à jouer. Indépendamment d'une association ou d'une structure, je pense que, voilà, on a tous à agir. Et c'est vrai que moi, la détresse, elle me touche. Et je peux pas l'ignorer à ma petite hauteur. Et je pense qu'on peut tous le faire. On peut avoir une action.
Le sans-abri, c'est une situation de détresse vraiment ultime, c'est autant que la maladie
Oui, et très souvent, elle se combine. Elle se combine. D'ailleurs, je pense que c'est une addition de choses. Et de surcroît, la grande difficulté de la rue, et j'ai pu le constater, c'est que c'est un monde dur en ce sens où on est en insécurité complète. Moi, je vous dirais, face à cette situation, moi, je me suis mis en dehors du centre-ville de Lyon pour être à l'abri et dormir d'une façon sécurisée, parce que ceux qui sont au sein même de la ville, ils sont en insécurité, même par les gens qui sont aussi de la rue. C'est-à-dire que c'est un monde sans pitié, la rue, hein. Et c'est un monde où on se fait voler, on se fait attaquer. Et donc, il y a aussi ça qui se grève dans toute cette détresse, finalement, cette insécurité au quotidien.
Alinéa a décidé de sensibiliser les Lyonnais, les pouvoirs publics, les Lyonnais, car il y aurait sur le territoire de la métropole de Lyon, 53 000 logements vacants, les pouvoirs publics, car la solution ne peut venir que d'un effort coordonné de l'État et des collectivités locales. Nous avons rencontré Pascal Izoard-Thomas, directeur général d'Alinéa, association porteuse du SAMU social.
Un état d'urgence sociale, c'est lorsqu'on a des situations qui s'installent dans la rue et pour lesquelles on n'a plus aucune solution à offrir. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Un jeune homme, alors que le droit à l'hébergement d'urgence est reconnu par de nombreux textes, y compris par des engagements internationaux de la France, sur par exemple la Convention européenne des droits de l'homme ou d'autres textes encore. Eh bien aujourd'hui, quand on a un jeune homme à la rue à Lyon, il faut attendre 40-45 mois pour avoir droit à un hébergement d'urgence, tant le parc actuel est saturé. C'est paradoxal parce que le parc n'a jamais été aussi important, mais les délais ne cessent de s'allonger d'année en année.
On parle de 14 000, de 26 000 personnes, c'est quoi le chiffre alors ?
Alors le vrai chiffre, c'est 14 000, c'est le chiffre officiel. 14 000 personnes recensées à la maison de la veille sociale en demande d'hébergement. Ce sont des personnes qui donc expliquent qu'ils sont en situation de détresse, quelle qu'elle soit, et ils demandent, comme le prévoit la loi, à avoir droit à un hébergement d'urgence. Ce chiffre-là n'a cessé d'augmenter, il a doublé en 5 ans, et c'est un peu le chiffre, en termes de référence, qu'on peut rapporter au chiffre qu'évoquait l'abbé Pierre en 54, de 2 000 personnes à la rue à Paris. Voilà, ça vous donne une idée de l'évolution qui est considérable. Lorsqu'on parle de 22 000, on parle des 14 000 auxquels on ajoute les 8 000 qui sont dans l'hébergement et qui sont coincés. Donc ça ne correspond pas à des sans-abri, ça correspond plutôt à des gens sans domicile. Voilà, si on prend les 14 000 sans-abri plus les 8 000 qui sont en hébergement, qui n'ont pas encore de logement à leur nom, ça fait 22 000.
Qui se retrouve aujourd'hui sans-abri et pour quelle raison ?
Oula, les publics sont très très variés. Il y a des publics, qu'on dit en grande marginalité, en grande difficulté. Ça, c'est entre guillemets traditionnel, mais c'est des publics pour lesquels les associations comme Alinéa développent des projets à la carte. Ceux-là n'ont pas beaucoup forcément évolué. Par contre, ce qui se massifie aujourd'hui, c'est des personnes isolées, en rupture familiale, des personnes qui travaillent, qui peuvent dormir dans leur voiture suite à des difficultés familiales là aussi, souvent. On a également des publics migrants dans l'attente d'une réponse, d'un guichet, de la préfecture, de la CAF, de je ne sais quel endroit, qui sont en grande difficulté parce que leurs droits ne sont pas encore établis. Voilà, tous ces sujets-là qui s'invitent et qui grossissent dans la rue.
Avant, on parlait d'accueil inconditionnel. Aujourd'hui, c'est encore le cas ?
L'accueil est inconditionnel, ce qui explique la saturation de l'hébergement d'urgence. Mais est-ce que la solution, c'est d'arrêter l'hébergement d'urgence inconditionnel pour se dire qu'on va trier ceux qui peuvent y rentrer ? Pour nous, clairement pas. La solution pour nous, c'est de développer de l'hébergement d'urgence pour que tout le monde puisse y avoir droit et surtout de construire les solutions de long terme qui vont être structurellement les solutions pour résorber le sans-abrisme, c'est-à-dire de la construction de logements sociaux et une amélioration, une facilitation de la mobilisation de logements privés à des fins sociales.
Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ces gens se retrouvent à la rue ? C'est quoi ? C'est le coût du logement ? C'est l'inflation ? C'est quoi ?
Le coût du logement est très clairement un des premiers facteurs. chaleur, la raréfaction également du logement social, les difficultés liées à la gestion de des phénomènes migratoires. Aujourd'hui, les délais d'attente pour avoir des droits sont de plus en plus longs. Donc ça aussi, ça explique les délais d'attente qui se traduisent par ben, on reste à la rue en attendant. Tous ces sujets-là augmentent. Et puis, il y a un autre facteur aussi, c'est les difficultés du secteur sanitaire et médico-social. On a beaucoup supprimé de lits, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques. Les difficultés du secteur, par exemple, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap augmentent aussi, avec des structures qui sont aussi saturées. Donc là aussi, ça alimente le sans-abrisme.
La préfète dit souvent qu'il faudrait établir la circulation des personnes, le circuit du logement, c'est-à-dire la rue, l'hébergement. Ça existe ou pas ?
Elle a 100% raison. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est en train de se mobiliser sur ces questions-là. Elle a besoin pour ça de faire alliance avec les collectivités, avec la métropole de Lyon, avec les villes. C'est très important que ces pouvoirs publics s'alignent et tiennent le même discours et la même position sur ce sujet. Parce qu'effectivement, la préfète a, par exemple, à sa main la possibilité d'avoir des crédits d'aide à la pierre. La métropole a à sa main la possibilité de les distribuer. Et les villes ont à leur main la possibilité d'autoriser les permis de construire pour développer les programmes. Donc, effectivement, il faut qu'ils travaillent main dans la main pour résoudre avec des solutions de long terme c'est cette problématique de l'accès au logement.
Et sur le court terme, parce que le logement social, ça va se construire, mais c'est à 5 ans, c'est une échéance à 5 ans. Sur le court terme, qu'est-ce qu'il faut ?
Eh bien, à court terme, de manière très, très urgente, il faudrait que le gouvernement reconnaisse la situation et accepte de créer plus d'hébergements d'urgence. Ce n'est pas la tendance actuelle. On a beaucoup dit qu'on avait beaucoup créé d'hébergements d'urgence jusque-là, donc il fallait s'arrêter. Eh bien, nous disons non, il ne faut pas s'arrêter, parce que certes, on a créé beaucoup d'hébergements d'urgence, mais comme on n'a pas créé à côté des solutions de long terme, eh bien, malheureusement, on est encore dans la saturation. Donc, il faut effectivement créer de l'hébergement d'urgence et créer les solutions de long terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être pour les publics qui nous écoutent et qui ont des logements vacants, de se rapprocher d'associations comme nous, parce que nous avons, même si nous appelons au don paradoxalement, on pourrait se dire, c'est bizarre, ils ne doivent pas avoir d'argent, mais lorsqu'un appartement se présente, l'État nous donne des moyens, lorsque l'appartement existe, pour pouvoir payer les loyers, assurer l'entretien, assurer les relations de voisinage, enfin, toutes les difficultés qui peuvent apparaître, les traiter nous, mais ça nécessite que les propriétaires privés acceptent de laisser pendant 5 à 10 ans leur logement à la disposition d'une association. C'est un moyen intermédiaire qui nous permettrait d'attendre la production de logements sociaux, et ça, ce serait un moyen efficace d'apporter des solutions immédiates.
Laisser un logement, c'est pas forcément l'ouvrir à n'importe qui, c'est ce logement, il est géré par vous, en fait.
Ce logement, il est loué à nous et mis à disposition de publics en difficulté. Mais quand je parle de publics en difficulté, il ne faut pas s'imaginer tout de suite les publics les plus fragiles qui ont eu des parcours psychiatriques ou autres qui peuvent peut-être inquiéter, même si on arrive à produire des choses qui fonctionnent avec ces publics-là, y compris dans le logement. Mais il y a aujourd'hui l'immense majorité du public dont on parle, c'est des hommes, des femmes isolées qui ont surtout des problématiques de rupture qui peuvent arriver à n'importe qui. On pense notamment aujourd'hui à des publics qu'on rencontre, de familles qui ont divorcé, de décolocations, voilà, qui se passent mal et avec des personnes qui se retrouvent à dormir dans des voitures.
Très concrètement, comment on fait un don à Alinéa ?
Très concrètement, on va sur le site alinéa.org, alinéa.org, et vous avez une petite fenêtre qui s'allume pour vous inviter à venir rejoindre la page des dons qui présente aussi nos solutions.
Pascal Izoard-Thomas, directeur général d'Alinéa, l'association porteuse du SAMU social à Lyon.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
106 restaurants français sur la liste 2024 des meilleurs mondiaux. À la première place, ex-aequo, on retrouve Guy Sawa à Paris et la Vague d'Or, le Cheval Blanc situé à Saint-Tropez. Le département du Rhône compte 4 restaurants classés dans ce palmarès établi par le site internet La Liste. Ce dernier compile des millions d'avis en ligne, des publications de presse et les critiques de centaines de guides gastronomiques. Le restaurant La Mère Brasier, situé rue Royale, est ainsi à la 5e place avec une note de 97,5 sur 100, soit un point de plus qu'en 2023. Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or se hisse à la 11e place du classement avec 94,5. Notez que le restaurant étoilé s'apprête à fêter son centenaire. Le 9e art, le restaurant de Christophe Rouhr, 2 étoiles au guide Michelin depuis 2015, à Lyon 6e, se classe 18e parmi les 1000 meilleurs restaurants du monde avec une note de 91 sur 100, soit 1,5 point de plus que l'année dernière. Toujours dans le 6e, Takao Takano, 2 étoiles lui aussi, est 19e. La liste lui accorde 90,5 points. Les Marcons, installés à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, s'offrent la 2e place Georges Blanc à Vona dans l'Ain et 3e, position qu'ils partagent avec la maison Pic à Valence et la maison Trois Gros, le Bois sans feuilles à Ouche dans la Loire. Le salon Horizon Senior s'ouvre aujourd'hui à la Cité Internationale. Durant deux jours, plus de 90 exposants, dont une trentaine d'associations, sont réunis. Ils tenteront d'aiguiller les visiteurs qui souhaitent donner un sens à leur retraite. Les secteurs de l'habitat, du service à la personne, de la gestion du patrimoine, également l'immobilier, les loisirs, la santé, le bien-être, l'aide à domicile, l'autonomie des seniors, la banque assurance ou encore le tourisme. Autant de secteurs donc présents à ce salon Horizon qui se tient sur ces deux jours de 9h30 à 18h. Une vingtaine de conférences sont également organisées durant ces deux journées. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la prochaine édition.